donner la parole maintenant à Pierre-Yves Néron, qui est maître de conférence.
Conférence.
À l'université de catholique de Lille, et qui a été post-doctorant au CREOM et au Center for Ethics à l'université de Toronto également. Il a été aussi le coordonnateur scientifique du CREOM pendant deux années, et donc vient de nous quitter en juin. On peut dire qu'il a marqué son passage au CREOM par une joie communicative, soutenue par une consommation proprement effrayante de café et problématique d'un point de vue éthique. Alors, il est spécialiste de responsabilité sociale des entreprises. Il travaille en particulier sur la notion d'entreprise à responsabilité limitée. Je voudrais simplement dire qu'actuellement, ses intérêts portent sur la construction de l'entreprise comme acteur politique, mais il s'intéresse également aux questions de justice climatique, comme d'ailleurs il a évoqué cette question dans le panel précédent, et un récent projet l'a porté sur la question de la corruption institutionnelle dans les entreprises et dans les marchés économiques. Voilà. Oui.
Donc, merci Marc-Antoine. Donc, ce que je voulais faire dans cette communication, c'est de rebondir sur la proposition de Wayne Norman, qui donc, a été soumise dans ce numéro des ateliers de l'éthique. Donc, grosso modo, ma conférence s'intitule « Pour une philosophie politique du commerce » ou, pour reprendre une phrase qui est devenue un peu catchy, un peu sexy, « Si tu es pour l'égalité, pourquoi ne peux-tu pas aller uriner au travail ?» Donc, je rebondis sur le texte de Wayne, parce qu'essentiellement, ce que je veux faire, donc ça fait plusieurs années que Wayne, dans différents travaux, nous propose cette espèce d'agenda de recherche, pardon, qui consiste à construire quelque chose comme une philosophie politique de l'entreprise, ou pourrait-on dire de manière plus générale, une philosophie politique du commerce, des pratiques et institutions du commerce en général. Donc, je trouve le défi particulièrement intéressant, séduisant. C'est ce que j'ai fait dans certains travaux. Donc, je voulais pousser un peu la réflexion en essayant d'imaginer ce à quoi... donc, la manière, en fait, dont pourrait réagir le partisan d'une philosophie politique bien particulière qui est l'égalitarisme. Donc, dans certains travaux ultérieurs, Wayne et d'autres ont essayé d'identifier, nous ont dit ce qui manque d'une certaine manière, c'est une philosophie politique du commerce ou une philosophie politique de l'entreprise qui viendrait pallier certaines faiblesses du domaine de l'éthique des affaires. Donc, je pense que ce que Wayne a en tête, c'est de nous dire essentiellement la chose suivante. En faisant une telle chose, en essayant de construire des ponts entre ceux qui s'intéressent à l'éthique des affaires et les philosophes politiques, les deux, grosso modo, en sortent gagnants. Donc, on se trouve à être débarrassé de certains travaux qui me semblent, je suis désolé, éminemment superficiels dans le domaine de l'éthique des affaires. Donc, le domaine de l'éthique des affaires en gagne et le domaine de la philosophie politique, les philosophes politiques en général gagnent à s'intéresser plus amplement au genre de choses que, donc, comme en fait Dominique le mentionnait si bien, donc en s'intéressant un peu plus aux pratiques et institutions du commerce et notamment ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Donc, comme certains l'ont mentionné, de manière générale, on peut dire que si on essaie d'identifier quelque chose comme une philosophie politique du monde du commerce ou des entreprises, on pourrait dire qu'il y en a une qui est très dominante, en fait, et qui est rarement explicitée dans les travaux dans le domaine, c'est l'école de Chicago, en fait, hein, qui se caractérise par une certaine exaltation, pourrait-on dire, des marchés économiques. Exaltation des marchés économiques qui, soit dit en passant, et j'insiste pour faire ce point, oscille constamment et de manière assez gênante, peut-être qu'on pourra en parler, entre des défenses purement libertariennes des marchés économiques et des défenses de type utilitariste des marchés économiques. Donc, ce serait une première philosophie politique du commerce qu'on pourrait être tenté d'identifier. Une autre qu'on pourrait être tenté d'identifier cette fois-ci, c'est ce qu'on pourrait appeler l'école de Boston, au sens où elle est principalement associée à ce qui se fait, pardon, Harvard Business School. Donc, c'est une école de pensée qui est principalement centrée, en fait, cette fois-ci, sur la mise en avant du modèle du dirigeant vertueux. Donc, on essaie de penser la figure du dirigeant d'entreprise qui est vertueux, qui est sensible à un certain nombre de choses. Donc, moi, je veux essayer d'intervenir dans le débat et de dire à Wayne, OK, si nous adhérons à cette idée, ils nous font une philosophie politique du commerce, qu'en dirait un égalitariste? Donc, il me semble qu'un égalitariste qui se pencherait sur ces questions soulèverait deux gros défis. Donc, un premier défi que je qualifie de distributif et le deuxième défi que je qualifie de relationnel. Donc, le défi distributif, c'est assez simple, en fait, c'est d'essayer de donner un sens à un certain nombre de choses dans le monde du commerce comme étant de potentiels objets de justice. Donc, des objets de la justice au sens rawlsien, pourrait-on dire. Et donc, l'idée consiste à dire que donc il faut être capable d'identifier des objets qui ont été, de manière classique, dans les théories classiques de la justice sociale, quelque peu négligées. Donc, on connaît l'espèce de récit classique rawlsien qui consiste à nous dire que l'objet de la justice sociale ou distributive, c'est la structure de base de la société, donc les principales institutions socio-économiques qui guident nos interactions entre individus. Et donc, le message qui est envoyé, c'est que la justice porte sur ce genre d'objet et à l'intérieur de cette structure de base de la société, bien, le message qui est envoyé, c'est qu'on peut à peu près faire ce qui nous plaît dans la mesure où nous respectons ces... donc, le cadre institutionnel juste dans lequel nous évoluons. Donc, c'est une posture qui est éminemment insatisfaisante et qui nous conduit, je crois, à gommer toute une gamme de questions qui sont intéressantes du point de vue philosophique et du point de vue de la justice, notamment en ce qui concerne ce qui se passe à l'intérieur des entreprises. Donc, là, en fait, selon ce récit classique rawlsien, cette posture institutionnaliste classique de Rawls, il est plutôt difficile de donner un sens à ce qui se passe à l'intérieur des entreprises dans la mesure où Rawls va les associer à ce qu'il appelle la vie associative ou les associations. Donc, c'est un récit qui est éminemment simpliste lorsqu'on se penche sur l'entreprise. Je crois qu'il est inacceptable de caractériser encore aujourd'hui l'entreprise comme étant simplement une association privée dont les activités relèvent tout simplement du domaine de la vie associative. Donc, je crois qu'il faut être capable de donner un sens du point de vue de la justice à des réflexions qui portent sur des choses comme la gouvernance d'entreprise, la façon dont la structure générale de gouvernance des entreprises qui, on le sait très bien, de manière générale, a tendance à favoriser la maximisation des intérêts d'un groupe bien particulier qui est celui des actionnaires, donc des fournisseurs de capitaux. Je crois que du point de vue de la justice, il vaut la peine de s'intéresser aux répercussions absolument fondamentales, très importantes sur le capitalisme contemporain, de ce qu'on appelle généralement la séparation entre la propriété de l'entreprise et le contrôle de celle-ci. Il faut également être en mesure de se pencher sur les écarts absolument troublants dans les salaires entre ceux des dirigeants des entreprises et des employés. Donc, ce sont généralement des questions qui, pour les théoriciens de la justice, semblent intéressantes, mais on se retient de s'y intéresser plus amplement. C'est peut-être dû à la posture rawlsienne qui, dans Justice as Fairness, nous dit « Ce sont des questions intéressantes, mais je vais les laisser de côté. » Et Rawls dit même que ce sont des questions intéressantes et il se pourrait très bien que l'avenir d'un régime constitutionnel juste dépende de ces questions, mais je vais les laisser de côté, ce qui me semble tout à fait insatisfaisant. Donc, ce que j'ai en tête ici, c'est pas, non pas un abandon de la posture institutionnaliste de Rawls. Je pense que quelqu'un comme Rawls a tout à fait raison de se consacrer aux institutions. Et comme quelqu'un comme J.A. Cohen l'a si bien mentionné lui-même, Rawls est extrêmement sérieux et d'une certaine manière très radical dans sa tentative, et Cohen dit même plus radical qu'un marxiste comme moi. Hein? Donc Rawls est très radical dans sa tentative de prendre au sérieux les institutions. Mais cela, ce désir de les prendre au sérieux, s'accompagne d'une conception qui est étonnamment conservatrice et assez classique de la division du travail entre la structure de base de la société et le reste. Donc je pense qu'on peut en faire un peu plus, et sans abandonner l'institutionnalisme, mais imaginer une forme d'institutionnalisme qui est redynamisée, qui est un peu plus dynamique. En fait, si je pense que quelqu'un comme Cohen, par exemple, en est venu à abandonner la focalisation sur les institutions, et même à en appeler à une révolution des cœurs, et en appeler à la figure de Jésus, hein, pour défendre l'égalité socio-économique, je pense que ce n'est pas parce que les égalitaristes institutionnels ont échoué, mais c'est parce qu'ils ont fait preuve d'un manque cruel d'imagination d'un point de vue institutionnel. Donc j'en appelle à une forme un peu plus renouvelée d'institutionnalisme. Donc ça, c'est le premier défi que je qualifie de distributif. Donc c'est un défi qui est associé à une forme d'égalitarisme qui consiste à se consacrer sur les patterns distributifs, la façon dont les institutions vont répartir certaines ressources, vont fournir certains paniers de ressources aux individus. Cela dit, je pense qu'il y a une autre forme d'égalitarisme que l'on associe maintenant généralement notamment à Elizabeth Anderson, qu'elle qualifie d'égalitarisme relationnel. Donc Anderson nous dit essentiellement la chose suivante: les égalitaristes contemporains se sont essentiellement consacrés à la question de savoir s'il était juste que le panier de ressources, juste ou non, que le panier de ressources dont les individus jouissent soit affecté à un point tel par des facteurs moralement arbitraires qui relèvent du hasard ou des choses qui relèvent, comme des choses qui relèvent du hasard, de la chance, des conditions sociales de naissance, des conditions familiales. Donc Anderson, à mon avis, il s'agit d'une idée assez séduisante, assez inspirante, nous dit: ce faisant, les égalitaristes se sont quelque peu éloignés en se concentrant uniquement sur les patterns de distribution qui sont affectés ou non par des facteurs moralement arbitraires. Les égalitaristes se sont éloignés de leurs objectifs classiques, qui est essentiellement la lutte contre les hiérarchies qui sont injustes. Je reviens à l'entreprise. La raison pour laquelle nous avons des entreprises, la théorie de la firme nous dit la chose suivante: la raison pour laquelle nous avons des entreprises plutôt que d'avoir recours simplement à des marchés économiques, c'est qu'à certains moments, les marchés échouent à produire des résultats qui sont optimaux. Donc, nous allons remplacer, en fait, les mécanismes décentralisés qui sont associés au marché économique par essentiellement des modes de fonctionnement qui sont hiérarchiques. Donc, on remplace les marchés par des hiérarchies. Hein? Donc, c'est ce que nous enseigne la théorie classique de la firme. Je pense que d'un point de vue normatif, il faut prendre au sérieux, hein, cette idée. Donc, ces formes d'utilisation de modes d'organisation hiérarchique peuvent être justifiées par les gains d'efficience, par exemple, mais néanmoins, il y a des questions particulièrement troublantes qui portent sur ces modes d'organisation hiérarchique, et notamment sur les formes d'autorité qui sont exercées par les dirigeants d'entreprise, les formes d'autorité, de coordination, de pouvoir qui sont exercées par les dirigeants d'entreprise. Il y a Elizabeth Anderson, d'ailleurs, qui faisait une remarque que Dominique a fait tout à l'heure sur l'ouvrage récent de Tomassi, hein, donc de Free Market Fairness. Encore une fois, Tomassi nous fournit l'espèce de fantasmagorie un peu classique des libertariens, dans lesquels il n'existe que des marchés, que des interactions économiques, que des relations de marché. Anderson nous dit, mais il existe effectivement dans ce qu'on appelle nos économies de marché des organisations fondamentalement hiérarchiques où il peut y avoir des formes d'autorité qui sont probablement injustes ou à tout le moins problématiques. Les égalitaristes doivent réfléchir à ce genre de choses. Et Anderson note, par exemple, et je reviens au titre de ma présentation, jusqu'à, je crois, 1987, hein, le Code du travail aux États-Unis interdisait aux employés d'aller uriner sur leur lieu de travail. Donc, l'autorité des managers était à ce point tel qu'on pouvait empêcher les employés d'aller uriner sur leur lieu de travail, ce qui pose des questions absolument troublantes et vexantes concernant l'autorité managériale. Et donc, je pense qu'un égalitariste de type relationnel arrive dans ces débats-là et jette un regard qui est extrêmement sceptique, parce que le monde des affaires, fondamentalement, est caractérisé par un très grand nombre de hiérarchies et même par une certaine valorisation de ce genre de hiérarchie. Je termine les 30 dernières secondes qui me sont allouées en disant la chose suivante. Oui, j'ai 30 secondes.
Oui.
Il me semble que l'égalitarisme relationnel est particulièrement intéressant parce qu'il est particulièrement fécond pour s'attaquer à la position non pas libertarienne et non pas utilitariste dans les débats sur la justice sociale, mais la position, en fait, conservatrice. Il me semble que la position conservatrice, on nommait constamment la position conservatrice dans les débats en éthique économique et sociale, en éthique des affaires et dans les théories de la justice en général. Donc, je pense que d'une certaine manière, dans les prochaines années, ce que nous devons faire, c'est d'essayer de penser le conservatisme, donc d'une certaine manière l'éthique économique et sociale, l'avenir de l'éthique économique et sociale est associé selon moi d'une certaine manière au conservatisme, et j'avoue j'ai un frisson dans le dos en le disant, mais je pense qu'il y a un échec dans le domaine à bien saisir, comprendre et critiquer, je pense, la position conservatrice sur bon nombre d'enjeux en éthique économique, parce qu'essentiellement ce sont les conservateurs et non pas les libertariens ou les utilitaristes, ce sont les conservateurs qui ne sont pas du tout troublés par les grandes inégalités, ce sont les conservateurs qui n'ont aucun problème avec les hiérarchies, les formes d'autorité, les grandes figures d'autorité, ce sont les conservateurs qui vont même valoriser ce genre de choses. Et pour eux, de manière générale, on pourrait dire que le monde des affaires et le monde du commerce représentent une espèce de forteresse, en fait, pour la défense d'un ordre social que les conservateurs aiment particulièrement, caractérisé par les inégalités et des formes d'organisation hiérarchique.
Merci Pierre-Yves d'avoir respecté parfaitement le temps.